Jacques Bainville, le sultan et sa nourrice. Il y avait une fois un pays dont il n'est pas besoin de dire le nom, car vous le connaissez bien. Jadis, ce pays avait eu des sultans qui se succédaient de père en fils, puis il avait renoncé à cette coutume, et l'on avait élu le sultan. Les partisans du nouveau système disaient aux partisans du système ancien que tout devait aller mieux qu'au temps où le chef de l'État était pris dans la même famille, puisque, gouverné tantôt par un vieillard, tantôt par un enfant, le royaume était en outre exposé à l'être par un idiot ou par un fou. Ils soutenaient donc qu'il était raisonnable de choisir le sultan parmi les hommes les plus capables et les plus éclairés. Or, ce pays, qui avait eu en 1000 ans 40 princes de la même famille, eut en un demi-siècle 12 de rois qui devaient être élus pour 7 ans. Mais 3 ou 4 seulement achevèrent leurs 7 années, et voici ce qui arriva à chacun d'eux. Le premier fut renversé au bout de 20 mois parce qu'on le trouvait trop intelligent. Le deuxième, qui avait été choisi parce qu'il était militaire, fut pour cette même raison chassé peu de temps après. Le troisième dut s'en aller parce que son gendre était un voleur. Un assassin abrégea la magistrature du quatrième. Le cinquième resta au pouvoir quelques mois seulement et partit de lui-même, on dit par dégoût. Le sixième fut trouvé mort très subitement. Le septième fut élu parce qu'il était le plus bête, et le huitième parce qu'il ne se mêlait de rien. Alors, le désordre s'étant mis dans les affaires publiques, et l'ennemi étant devenu menaçant, on en choisit un neuvième, qui avait la réputation d'être énergique et d'avoir des poings robustes. Cependant, il éclata une guerre plus terrible que toutes celles qu'on avait jamais vues. On réussit, non sans peine, à chasser l'envahisseur. Après quoi vint un 10e sultan, qui bientôt fut déposé parce qu'on prétendait qu'il avait des visions cornues. Les choses commençaient à aller mal, fort mal. L'ennemi ne payait pas le tribut auquel il avait été condamné pour réparer les dommages que l'État avait subis. C'est alors que fut élu Mihi el-Rehan. Son nom, qui signifie le taureau victorieux, fut salué de longues acclamations. « Voici, disait le peuple, l'homme qui fera rentrer le tribut, par qui nous serons soulagés de l'impôt, et qui rendra le pain moins cher. » Mihi el-Rehan avait de la bonne volonté, mais il avait le tort d'accorder une confiance aveugle à ses vizirs qui le trahissaient et le volaient à l'envi. Aussi le tribut ne rentrait pas mieux qu'avant. Les impôts étaient de plus en plus lourds et le pain de plus en plus cher. Et ceux qui avaient soutenu que le meilleur système était d'être le d'élire le sultan se répandirent dans le pays en disant « Tout cela est la faute de Mihi el-Rehan. Il faut le renverser et le remplacer par un serviteur du peuple qui prenne le parti des pauvres contre les riches. Après quoi, tout ira bien. » Il advint, comme ils avaient dit, sauf pour leurs promesses remplies de vent. Les agitateurs détrônèrent Mihi el-Rehan avec l'aide de ses faux amis, les mauvais vizirs. Et Mihi el-Rehan quitta son palais en gémissant. Il prenait la foule à témoin que la loi avait été violée en sa personne. Mais la foule ignorait la loi. Elle espérait avoir un plus gros poids de pain pour le même somme d'argent. Cependant, le trône, étant vide, fut escaladé par un petit homme né dans la province du Sud et qui s'appelait Al-Gastourni, c'est-à-dire le subtil ou le rusé. Al-Gastourni fit venir les agitateurs qui avaient chassé Mihi el-Rehan de son palais, et il les chargea de diriger l'État. Les agitateurs, devenus ministres, comblèrent de cadeaux leurs partisans et mirent le trésor public au pillage. Quand il n'y eut plus d'argent, ils cachèrent la vérité, et ils fabriquèrent secrètement de la fausse monnaie. Alors il fallut, pour avoir une livre de pain, donner des sommes plus grandes qu'avant. Le peuple commença à murmurer, et Al-Gastouni fut pris d'inquiétude. Les agitateurs n'étaient pas moins inquiets que lui. C'est pourquoi ils lui conseillèrent de rappeler un certain Joseph, qui était exilé dans le district de Sarthe, parce qu'il avait jadis conspiré contre un sultan. Selon la rumeur publique, mais ce n'était qu'un bruit répandu par lui-même, Joseph possédait une recette merveilleuse pour rendre les marchandises moins chères et faire de l'or avec du papier. Comme les autres sultans, Al-Gastouni avait peur de Joseph, qu'on savait ambitieux, dénué de scrupules et capable de supprimer les adversaires qui le gênaient. Al-Gastouni, ayant pesé tous les périls et tous les maux, se résolut cependant à tenter l'aventure. On alla dans le district de Sarthe chercher Joseph. Et la détresse était si grande que tous, riches et pauvres, dans l'attente d'un sauveur, voulaient voir en lui un magicien. Mais il apparut bientôt qu'il ne connaissait aucun remède, sinon de dire à tous « Patientez, serrez votre ceinture autour de votre ventre, privez-vous et tout ira bien. » Personne ne suivait ce conseil, que chacun trouvait bon seulement pour les autres. Alors, le trésor étant vide de nouveau, Joseph fabriqua une plus grande quantité de fausses monnaies, en assurant, comme ses prédécesseurs, que c'était pour la dernière fois. Al-Gastouni, ainsi que le voulait son nom, n'était pas dépourvu de subtilité. Il comprenait bien que Joseph n'avait nullement guéri des finances et qu'il faudrait imprimer des quantités de plus en plus grandes de billets, tant qu'à la fin, 10 000 ne suffiraient plus pour avoir une simple poignée de riz. Lorsqu'il se montrait au peuple, le sultan affectait la joie et la confiance. Au fond de son palais, il était rongé de soucis, si bien qu'un jour, le voyant triste et bien jaune quant au teint, la vieille nourrice qu'il avait élevée dans sa province du sud lui dit « Oh, mon maître, tes joues sont creuses et ton regard lointain. Tu dédaignes les plats délicieux de ton cuisinier et tu délaisses ta favorite. Est-ce ainsi que doit être un sultan? Que puis-je faire pour soulager ta peine? Dis-moi, parle. Tu sais que je suis dévoué. » Oh, nourrice, répondit le sultan, la peine que j'ai n'est pas celle que les vieilles comme toi consolent, car j'aurais besoin d'un conseil pour les affaires de l'État, et tous ceux qui m'en donnent sont des menteurs ou des fripons. » Alors la nourrice rentra en elle-même et humblement elle dit, « Oh, mon maître, lorsque tu étais un tout petit garçon, il advint que tu tombas malade. On alla chercher à la ville prochaine un médecin qui apporta beaucoup de baumes et de potions. Mais loin de guérir, ta santé devenait toujours plus mauvaise et tes parents finissaient par désespérer. Et un jour, un sage derviche entra dans la maison et après avoir observé ce qui s'y passait, il dit « Ce petit garçon se portera bien lorsqu'il ne sera plus gâté par ses parents et par sa nourrice, lorsqu'il n'aura plus de friandises, chaque fois qu'il en demandera et lorsqu'il suivra le régime que je vais dicter. » Alors le derviche prescrivit de l'eau pure et des herbes cultes. Il demanda que rien d'autre ne fût donné, si personne que fût écrit. C'est ainsi, ô mon cher maître, que tu es redevenu gras et rose. Les peuples sont comme les enfants. Il faut leur résister pour leur bien. » En entendant ces mots, Al-Gastouni sourit avec amertume. « Vieille, dit-il, ta fable est sage, mais le peuple est un enfant à 1000 têtes. C'est lui qui m'a mis dans ce palais, et il m'en chassera comme il a chassé Vilelran, si je veux lui imposer des sacrifices et mettre fin aux prodigalités. Cependant, je pressens que je serai en palais le jour où, pour 10 000 des billets de Joseph, on n'aura même plus une bouchée de pain. S'il en est ainsi, dit la nourrice, l'état est bien malade, il n'y a pas à espérer de guérison. Mais toi, sultan, qui donc es-tu, si voyant le bien tu laisses faire le mal? Pourquoi es-tu sur ce trône et dans ce palais? Jadis, dans mon village, on disait que tout irait mieux, quand les sultans seraient élus au lieu de se succéder de père en fils. Seul le vieux derviche, dont je t'ai parlé tout à l'heure, soutenait que c'était une illusion. Moi, je crois que le derviche ne s'était pas trompé. Ah, c'est bon, Al-Gastouni entra dans une grande fureur. Il fit saisir sa nourrice par les gardes et ordonna qu'elle fût enfermée dans un cachot, de peur qu'elle ne répétât ce qu'elle lui avait dit. Car enfin, méditait-il en son cœur, je suis tout de même sultan, ce qui vaut mieux que d'être berger dans mon village. Et il n'est pas certain que je sois en palais. Qu'importe si le peuple se ruine, s'il gaspille les ressources de l'État. C'est un grand garçon majeur et qui travaille pour son compte. S'il fait son malheur, cela ne regarde que lui. Moi, je serais bien naïf de me tourmenter. À demain, les affaires sérieuses, et prenons le temps comme il vient. Ce jour-là, il y avait une grande fête que l'on nomme exposition. Le peuple y dépensait à profusion les billets de Joseph dans des amusements enfantins. Al-Gastouni se mêla à ces jeux avec un visage hilar et la foule se réjouit en disant « Amusons-nous comme le sultan lui-même. Quand l'État sera nu et dépouillé, quand tout le monde sera pauvre, nous le verrons bien et nous ne ferons de reproche à personne puisque tel est notre bon plaisir. » C'est ce qu'on appelle le gouvernement du peuple, par le peuple, ou démocratie.